Ces pages blanches m'offrent un compromis que j'accepte avec soulagement. Moi, qui ai si rarement eu le courage de faire des choix irrévocables. Je coucherai donc l'histoire de ma famille dans ce carnet qui a si bien su attendre son heure. Je la raconterai, de la manière la plus exhaustive possible, sans omettre les épisodes douloureux. Quand j'aurai fini, je te le laisserai, Justine, avec tout le reste. Comme tu te demanderas pourquoi à toi et non à ta mère, je répondrai que tu es la seule pour qui le passé importe peut-être. Si c'est bien le cas, tu viendras ici quand je ne serai plus. Arthur te remettra ce carnet et tu décideras quoi faire de nous. Dans le cas contraire, c'est bien possible, car nous nous sommes si peu connus et tu étais si petite. Tu ne viendras pas. Tu laisseras les avocats et les agents immobiliers faire leur travail et tu continueras à vivre ta vie, sans jamais revoir cette maison ni ce lac. Arthur aura pour instruction de brûler ce carnet. Cet été pourra alors sombrer dans l'oubli et Émilie avec lui, comme tous les autres fantômes des choses oubliées. C'était l'année 1935. J'avais 11 ans, Lilith 13 et Émilie 6. À l'époque, nous habitions en ville dans la maison brune construite par mon grand-père, mais nous passions nos étés ici, dans notre maison jaune au bord du lac. Dès le lendemain du dernier jour d'école, mère avait fait les malles avec nos robes d'été, nos maillots de bain et nos chapeaux. Et père nous avait conduites en voiture, couvrant les 20 kilomètres qui séparaient les frontières de notre monde. Lilith, Émilie et moi avions pris place à l'arrière de la Plymouth. Et comme d'habitude, je m'étais assise au milieu. Quand je pressais mon pied contre celui de Lilith, elle me répondait par une poussée similaire. Tu as connu Lilith le temps d'un seul été, il y a 20 ans de cela, quand tu es venue avec ta mère. J'imagine que tu nous voyais comme deux vieilles femmes qui passaient tout leur temps sur leur véranda protégée par une moustiquaire. J'aurais aimé que tu la connaisses mieux. Vraiment mieux. Parce que n'importe quelle histoire où elle jouait un rôle devenait son histoire. Et la mienne ne fait pas exception. Dans mon premier souvenir, elle m'enjoignait de placer mes pas dans les empreintes qu'elle laissait sur la plage. Elle me faisait pirouetter et virevolter jusqu'à ce que je perde l'équilibre et tombe. Ce simple jeu résume bien nos années d'enfance. Je la suivais partout et faisais tout ce qu'elle me demandait sans jamais parvenir à l'égaler. Jusqu'au printemps de l'année 1935, où quelque chose a changé. Nous passions toujours tout notre temps ensemble, mais ni les promenades à l'étang de Seward, ni les jeux dans la cabane que père nous avait construite dans un arbre du jardin, ni la marelle, ni la balançoire ne lui faisaient plus envie. Au lieu de cela, elle passait beaucoup de temps à se regarder dans le miroir, à brosser les boucles brunes qui lui arrivaient à la taille. Elle avait un visage un peu étrange, avec un nez trop long et une bouche trop grande, qui, associée à ses pommettes délicates, créait un effet improbable et saisissant. Un effet qu'elle étudiait comme s'il s'agissait de comprendre le fonctionnement d'une machine. Elle avait grandi, et même si elle portait encore ses robes de l'année passée, dont on avait défait les ourlets, son corps était en train de changer. En avril, elle m'avait attirée dans la salle de bain que nous partagions pour me montrer ses seins naissants. En mai, mère lui avait acheté une brassière. Au début, elle avait eu besoin de mon aide pour l'agrafer, et c'est moi qui glissais les crochets minuscules dans les fragiles œillets. Après, elle se promenait avec le dos droit et la tête haute, comme un mannequin du catalogue Sears & Roebuck. Elle semblait totalement différente. Bien sûr, il y a un gros écart entre 11 ans et 13 ans. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, je me sentais seulement délaissée, au bord d'un chemin qui menait je ne savais où, et que je n'avais pas envie d'emprunter. Cependant, tandis que le printemps avançait et que l'on s'acheminait à grands pas vers l'été, je m'étais mise en tête que ces 3 mois près du lac seraient l'occasion rêvée de ramener Lilith vers moi. Nous jouerions dans les bois, nous nous assoirions sur le pont qui enjambe la rivière, nous discuterions à voix basse, allongés dans nos lits jumeaux. Alors, sûrement, elle finirait par rejeter l'étrange costume d'adulte qu'elle avait endossé pour voir comment il lui allait. Son pied pressé contre le mien dans la voiture confortait cette espérance qui a continué de s'épanouir à mesure que la route se faisait plus étroite. Nous sommes arrivés à 7 heures de l'après-midi où la lumière blanche devient dorée et où l'eau prend son bleu le plus profond. La maison, restée fermée tout l'hiver, était non seulement obscure, mais aussi froide et humide. Une fois ouvert, les rideaux et les fenêtres à guillotine, la brise chaude a pu s'engouffrer à l'intérieur et a eu vite fait de dissiper la maussaderie de la longue saison hivernale. Pour moi, cette maison était un être vivant, à qui nos rires et le claquement de nos chaussures sur son parquet en pin redonnaient le moral. Lilith et moi avons porté notre mal jusqu'à notre grande chambre verte. Nous adorions ce rituel qui consistait chaque année à suspendre nos robes d'été dans le placard, aligner nos chaussures sur les étagères et disposer nos chapeaux sur les patères au-dessus de la commode. En ville, nous dormions dans des chambres séparées. Ici, le déballage et le rangement de nos affaires donnaient lieu à un véritable cérémonial. Il ne s'agissait pas juste de remplir tiroirs et placards, mais de reconquérir un territoire partagé. Ce jour-là, pendant que nous rangions, faisions nos lits et aérions les courtes pointes qui avaient passé l'hiver pliées dans l'armoire à linge du couloir, Lilith s'est comportée comme si rien n'avait changé. Elle échafaudait des plans en prévision de notre prochaine visite à l'arbre de 100 ans. Pendant ce temps, Mère installait Émilie dans sa petite chambre, de l'autre côté du palier, et Père déchargeait le reste des valises et des malles, qui semblaient toujours plus nombreuses d'une année sur l'autre. Dehors, de part et d'autre du chemin de terre qui longeait le lac, les voisins aéraient eux aussi leur résidence d'été et se saluaient. Il y avait 7 maisons, toutes construites entre 1905 et 1910, à l'époque où les notables de notre petite ville du Minnesota, désireux d'imiter les Vanderbilt et Rockefeller de New York, avaient décidé qu'eux aussi devaient avoir une maison de vacances ou se réfugier l'été pendant que leurs concitoyens moins fortunés rôtissaient en ville. Les premiers ont été les Jones, propriétaires de l'épicerie générale. Puis sont venus les Pugh, médecins de la ville pendant 2 générations. Les Davis, dont le grand-père était juge de circuit. Les Lewis, dont le père était notre dentiste. Et les Williams, une famille de notaires qui avait donné son nom à la ville. Quant à mon père, il était propriétaire et gérant du drugstore Evans Drugs, magasin fondé par notre grand-père. La plus grosse maison appartenait à Robert Lloyd, propriétaire de tout le reste ou presque, et qui, comme son père et son grand-père avant lui, était maire de la ville. Nous descendions tous du petit groupe de fondateurs de Williamsburg qui avait fui les mines de charbon du pays de Galles quelques 80 ans plus tôt, et nous considérions notre richesse et nos positions sociales comme des droits inaliénables. Aujourd'hui, toutes ces maisons tombent en ruine, mais je suis sûre que tu pourras imaginer à quel point elles ont été jolies. L'été 1935 a marqué le début de leur déclin. Des peintures passées qu'on ne rafraîchissait pas, ici et là des moustiquaires endommagés qu'on ne réparait pas. Enfant, je ne comprenais pas que les temps étaient durs, et les économies de bouts de chandelle de mère, elles défaisaient les ourlets des vêtements pour qu'ils durent plus longtemps ou faisaient ressemeler nos chaussures, ne faisaient que m'indigner. L'année d'après, les Jones et les Davis ne sont même pas venus au lac. Leurs maisons sont restées fermées jusqu'à ce que des familles de Minneapolis les rachètent pour y venir une semaine et les louer le reste du temps. En l'espace de quelques années, toutes les familles ont fait de même, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Lilith, mère et moi. Dans ma mémoire, le tout début de ce dernier été reste teinté d'une mélancolie rétrospective, sans doute parce que je sais ce qui était sur le point de se produire. J'ai adoré notre premier après-midi, comme j'avais adoré tous les premiers jours de vacances avant lui. Il me donnait pour une fois l'impression que notre famille était comme toutes les autres, non seulement en apparence, mais aussi en réalité. Tandis que mère défaisait les bagages et installait la maison, sa voix devenait d'une douceur sans pareille. Père, lui, perdait de sa sévérité. Émilie, d'habitude si sombre, sautillait partout comme l'enfant de 6 ans qu'elle était, même si j'avais souvent tendance à l'oublier. Mais le meilleur de tout, Lilith jacassait et riait comme si elle avait de nouveau 12 ans. Ce bonheur, ordinaire d'une famille en vacances, me faisait sourire à en avoir mal aux joues. Traditionnellement, c'était les Miller, la famille à demi chippewa qui possédait le lodge de pêche, qui se chargeait de cuisiner pour nous le premier soir. Les heures que nous passions à faire nos lits et ranger nos vêtements dans les tiroirs de la commode nouvellement tapissée de papier, les Miller les passaient à rôtir des poulets, cuire du maïs et faire du pain. Nous étions plus de 60, et nous nourrir tous représentait plusieurs jours de travail. Mais les temps étaient difficiles pour eux aussi. et il devait